Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faisait des petits dessins qui avaient quelque chose d'intéressant. Voici l'appréciation d'une sœur sur son petit frère. Elle avait 6 ans de plus que lui, alors il était, enfin elle le jugeait, turbulent, rêveur, chétif, mais un petit garçon comme les autres en fait. Comme les autres, mais un grand nom. La grande sœur était Laure Moulin, interviewée à Montpellier fin 1964 dans une émission consacrée à Jean Moulin à l'occasion du proche transfert au Panthéon de ses cendres.
Ici Anne-Marie Rosé qui vous parle de Montpellier. C'est dans son appartement du 21 de la Grand Rue de Montpellier, nommé maintenant Grand Rue Jean Moulin, que nous avons rejoint la sœur du premier président du Conseil national de la Résistance, Mademoiselle Laure Moulin. Un appartement où l'on retrouve beaucoup de souvenirs et naturellement les souvenirs de la clandestinité d'abord, mademoiselle.
Bien, pendant la clandestinité, mon frère n'habitait pas constamment ici. Il y a habité quelque temps après avoir été limogé de son poste de préfet de Chartres. Et puis il avait pris comme résidence officielle notre village d'origine, Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône. Il venait environ une fois par mois ici.
Et c'est là que vous cachez aussi certaines pièces qu'on
Mais oui. Là, surtout, il est venu directement ici après avoir été parachuté dans les Alpilles. Et il a porté sur lui 3 pièces extrêmement compromettantes. Un ordre de mission, une lettre du général de Gaulle, entièrement de sa main, une lettre du commissaire à l'intérieur, M. Diethelm, et un petit ordre de mission en microphoto contenant environ 18 articles, surtout sur les sabotages. Et ces 3 pièces ont été cachées par nos soins le soir, derrière un morceau de tapisserie décollé à environ 3,50 m de hauteur dans l'antichambre de notre appartement.
Souvenir émouvant parmi tant d'autres dans cet appartement. Mademoiselle Moulin, si on connaît bien maintenant la vie héroïque de Jean Moulin pendant sa clandestinité, on connaît moins bien son enfance. Cette maison n'est pas une maison natale.
Non, cette maison, nous sommes venus l'habiter au 1er janvier 1938. Mais auparavant, nous habitions Béziers. Et mon frère est né à Béziers le 20 juin 1899. Sa maison natale était sur une grande place appelée le Champ de Mars. Mon père était professeur au collège de Béziers. Mais mon père, ma mère, étaient originaires de Provence. Moi-même, je suis née dans ce petit village de Saint-Andiol.
Et je crois du reste que ses ascendances provençales avaient marqué Jean Moulin.
Oui, ses ascendances provençales avaient marqué mon frère, comme elles avaient encore plus marqué mon père. Nous adorions aller en Provence. C'était surtout l'époque des vacances.
Et quelle sorte d'enfant était Jean Moulin? Est-ce qu'il était gai, tranquille ou au contraire turbulent?
Eh bien, il était à la fois gai et rêveur. Il était à la fois turbulent et tranquille. Il était surtout assez chétif étant jeune, pas de mauvaise santé, mais maigre et très nerveux. Alors il n'a pas pu faire des études, il a fait de bonnes études, mais il n'a jamais été fort en thème. Et il a eu le prix d'excellence en 10e seulement quand il était tout petit garçon.
Mais ses dispositions artistiques se sont révélées très tôt.
Très tôt, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, alors qu'il ne savait pas lire ni écrire. Il faisait des petits dessins qui avait quelque chose d'intéressant. Les figures étaient très archaïques.
Comme celui que nous avons sous les yeux,
oui.
Qui s'inspire de la promenade Paul Riquet à Béziers.
Paul Riquet à Béziers, seulement, ça paraissait un peu banal, la promenade Paul Riquet. Mon frère l'avait intitulée « La promenade des Anglais à Nice ». Mais on y retrouvait toutes les personnes qui se promenaient à Béziers, c'est-à-dire les soldats qui étaient bien campés, bien sanglés, et les dames avec les chapeaux et les robes 1900.
Et quand Jean Moulin a dessiné, il n'était plus nerveux, mais au contraire très calme.
Oui, il était extrêmement calme à ce moment-là, beaucoup plus que quand il faisait une version latine ou un thème latin, ou un problème qu'il venait me demander de lui faire, parce que j'ai 6 ans de plus que lui.
Et plus tard, tout en poursuivant une carrière administrative, votre frère a continué à dessiner.
Oui, il a dessiné pendant toute sa carrière, sauf pendant la résistance, parce que vraiment, à ce moment-là, il n'avait pas de chez soi et il était toujours à circuler d'un côté et d'autre. Il a beaucoup publié, entre les deux guerres, de dessins dans tous les journaux satiriques de l'époque.
Et avec sa grande sœur? Comment se comportait-il ?
Eh bien, avec moi, eh bien, il n'essayait pas de prendre trop de liberté quand il était petit. Il était extrêmement taquin. Nous avions une cousine chez nous qui avait 3 ans de plus que lui, et nous n'avons pas pu la garder parce qu'il lui tirait les tresses, il lui prenait son encrier quand elle était en train de faire ses devoirs. Elle pleurait, elle ne savait pas se défendre. Moi, j'avais 6 ans de plus. Et alors, s'il commençait comme ça, j'avais la main un peu leste et il se taisait. Mais il n'était pas du tout rancunier. Il était vraiment un gentil garçon.
Et du reste, vous avez été plus tard sa confidente au moment difficile.
Mais oui, au moment difficile, il s'est confié à moi de l'essentiel qu'il devait me dire et pouvait me dire. Il n'était pas extrêmement loquace sur le point de la résistance. Mais enfin, c'est moi qui ai eu l'ordre de mission du général de Gaulle, qui était très au courant de son voyage et des difficultés qu'il avait eues pour se rendre à Londres. Et il m'a confié également son journal des journées tragiques de Chartres en juin 40. C'est sur la table de notre salle à manger qu'il l'a écrit. Et il m'a dit, ça, garde-le, et tout le dossier que j'ai sur les exactions des Allemands à Chartres, mets-le en lieu sûr, et plus tard à la libération, on le ressortira.
Comment avez-vous appris son arrestation ?
J'ai appris son arrestation presque un mois après qu'elle a eu lieu. Parce que les deux amis de Paris, qui étaient les secrétaires du Conseil national de la résistance, que je connaissais bien, Pierre Meunier et Robert Chambéron, ont cru qu'il valait mieux ne pas m'avertir. Ils ne me connaissaient pas. Ils avaient peur que je fasse quelques démarches intempestives qui auraient pu nuire à la sécurité de mon frère s'il avait été encore vivant.
Du reste, une longue absence ne vous surprenait pas essentiellement au départ.
Non, je l'avais vu pour la dernière fois le lundi de Pâques en 1943 et il m'avait dit « Je me sens visé, mon lieutenant Manès a été arrêté, j'ai peur qu'il ait mon identité parce qu'il devait me faire faire une nouvelle carte. Alors, je ne viendrai pas souvent ici, je resterai longtemps, je fais quelque chose de très important et quand j'aurai fini, j'irai en Angleterre me faire oublier pendant quelque temps. » Alors, je n'étais pas plus inquiète que d'habitude.
Et vous avez eu l'annonce de son décès de façon assez brutale.
Oui, c'est-à-dire que d'abord, un ami de Paris est venu m'annoncer son arrestation. C'était vers le milieu de juillet 43. Et au début d'octobre 43, de la même année, un employé de la Gestapo de Montpellier est venu sur ordre de Paris m'annoncer le décès, comme ça, sans aucune préparation, et en me disant qu'il était mort d'un arrêt du cœur. C'est une mort qui revenait souvent d'après les Allemands.
Et vous avez fait aussitôt des démarches à Paris.
Alors, aussitôt, je suis allée à Paris et j'ai pu arriver à me faire recevoir, avenue Foch, par l'officier qui s'occupait de l'affaire de mon frère, un nommé Meiners, qui était sous les ordres de Bemelbourg et de Kieffer.
Et vous avez obtenu finalement des pièces justificatives.
Eh bien, pas des Allemands, mais après la guerre, en 1946, peut-être en 1947, j'ai fait une enquête et le ministère de l'Intérieur la faisait aussi par l'intermédiaire de M. Vibeau, qui était directeur à la surveillance du territoire. L'enquête du ministère de l'Intérieur a conclu à la réalité des cendres de mon frère dans l'urne numéro 10137. J'ai une lettre de M. le ministre Depreux qui figure actuellement dans un dossier que j'ai remis à monsieur le ministre des anciens combattants. Et moi-même, j'ai trouvé une pièce qui m'a paru très importante dans le cabinet du conservateur du Père Lachaise. Un ordre de la police allemande à la police française d'aller retirer le corps d'un Français inconnu à la gare de l'Est le soir à 18h et de le faire incinérer immédiatement.
Et pour vous, il n'y a pas de doute?
Pour moi, il n'y a pas de doute parce que cette note porte en haut, le numéro 10137.
Et maintenant, vous vous préparez à aller à Paris ?
Et maintenant, je me prépare à aller à Paris pour cette cérémonie qui est pour moi vraiment à la fois très émouvante et très glorieuse parce que c'est un hommage exceptionnel que la nation rend à mon frère. J'irai quelques jours à l'avance et j'y serai le 19 au Panthéon.
Cet entretien avec Laure Moulin a été diffusé pour la première fois sur Intervariété le 18 décembre 1964, à la veille du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin.